Je salue Guillaume Agulot, que je remercie d'être ponctuel au rendez-vous ce matin. Guillaume Agulot, que j'ai le plaisir de recevoir de temps en temps parmi les participants de la mêlée de l'info. Je précise que vous êtes fonctionnaire territorial au conseil départemental de la Haute-Garonne, que vous y êtes chargé de mission laïcité, chargé aussi de la promotion des valeurs républicaines et de la prévention de la radicalisation. Ceci a son importance compte tenu du sujet que nous allons aborder avec vous maintenant. Il y a quelques jours, nous commémorions un bien triste premier anniversaire, celui de l'attentat atroce perpétré contre Samuel Paty par un terroriste islamiste. Un hommage national a été rendu au professeur assassiné. Mais un an après, il y a toujours des questions qui restent en suspens, notamment celles concernant la chaîne des responsabilités dans la survenue de cet attentat, entre autres les responsabilités de la direction de l'établissement où enseignait Samuel Paty. On a le sentiment que les risques qu'il encourait n'avaient pas été pris en compte, bien qu'il avertisse sa hiérarchie, et que celle-ci ne l'a pas protégé, autant dire les choses. Guillaume Agulot, vous travaillez avec des collèges pour la prévention de la radicalisation, et je sais que vous avez suivi de près cette affaire depuis le début. Est-ce qu'il y a vraiment eu, selon vous, de graves manquements au sein de l'établissement où enseignait Samuel Paty, voire au sein de services de l'éducation nationale ?
Oui, bonjour Eric, merci pour votre invitation d'abord et bonjour à tous les auditeurs. Alors effectivement, l'histoire de Samuel Paty, c'est d'abord l'histoire d'un enchaînement dramatique. Et c'est l'histoire d'un enchaînement dont on se rend compte qu'il aurait pu, à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises, être arrêté, être interrompu ou au moins freiné et que ça ne l'a jamais été. D'abord, rappelons quand même que la première des responsabilités, ça n'est évidemment pas le fait de l'éducation nationale. La première des responsabilités, c'est quand même des propos mensongers, d'abord tenus par une élève qui ne voulait pas se faire sanctionner parce qu'elle n'avait pas assisté au cours et qui ment à son père. C'est son père qui relaie des informations sans même chercher à les vérifier de quelque manière que ce soit. C'est un imam qui est à ses côtés, fiché S, condamné déjà pour apologie du terrorisme et qui lui aussi attise les choses. Et c'est cet emballement médiatique qui va durer 10-11 jours. Et dès le début, l'éducation nationale, l'administration est au courant de cette affaire-là. Et là, on se rend compte qu'effectivement, c'est la deuxième partie de ces enchaînements dramatiques, non pas malheureux, comme le dit le rapport de l'éducation nationale, mais dramatiques, qu'à un moment donné, il va falloir quand même poser les mots. C'est cet enchaînement, ou plutôt ce non-enchaînement de choses dramatiques, puisque en réalité, la première des choses que va faire l'éducation nationale, c'est dépêcher au plus près et au plus vite un inspecteur chargé des questions de laïcité auprès de l'enseignant pour vérifier ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il n'a pas dit, etc. etc. On ne songe même pas à interroger l'élève, la collégienne qui a proféré ses premières accusations. Cela aurait été très rapide de se rendre compte simplement qu'elle n'était pas en classe, donc elle ne peut pas raconter ce qu'elle a vu, elle n'y est pas. Non, on va d'abord aller voir le professeur. Et là, la première des choses, là, c'est absolument terrible, et je crois que de là, tout s'enchaîne. C'est ce rapport de l'inspecteur qui dit ce principe de laïcité que ne semble pas maîtriser Monsieur Samuel Paty. Et à partir de là, on va se le dire tranquillement, c'est le grand lâchage de la part de l'éducation nationale, de la part de son administration, de la part de certains de ses collègues qui se désolidarisent de lui dans la salle des professeurs. Et on est face à un homme qui se retrouve tout seul, qui appelle à l'aide à plusieurs reprises, par des messages, par des informations, par des mails officiels professionnels, et qui n'est jamais soutenu. En fait, ce que l'on se rend compte, c'est que tout ce qu'espère l'éducation nationale, c'est que les vacances arrivent et que ça va se tasser. Malheureusement, les vacances sont arrivées, et le soir de la sortie des vacances, c'est tous le drame qui s'est passé. Cette histoire de Samuel Paty, c'est d'abord, au niveau de l'éducation nationale, c'est ce que dit le rapport, l'absence de prise de décision qui aurait pu, à minima, mettre en protection le professeur, et lui assurer d'un soutien, ça n'a jamais, jamais été le cas.
Oui, alors on parle effectivement souvent de manquement de lâcheté dans cette affaire, et on évoque beaucoup un principe qui serait très présent au sein de l'éducation nationale, et dans beaucoup d'établissements semble-t-il, ce serait celui du « ne pas faire de vagues ». Est-ce que vous confirmez que ce principe serait très présent dans l'éducation nationale ?
Il est très ancré, ça c'est clair, effectivement. L'éducation nationale est une machine qui ne va pas très très bien, ça c'est un constat banal, tout le monde le fait, tout le monde le sait, et n'y a pas forcément des choses qui se font. Il y a des plans d'adaptation, d'amélioration, mais pas de refonte intégrale. Et donc, l'éducation nationale ne va pas bien. Et donc, il ne s'agit pas de dédouaner quiconque, hein, mais l'éducation nationale, les personnes qui y sont, à quelque niveau de responsabilité que ce soit, font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Et aujourd'hui, quelle que soit la situation, quelle que soit l'angle sur laquelle on le regarde, on se rend compte qu'en fait, l'éducation nationale n'a pas les moyens de remplir toutes les missions qu'on lui assigne. Il n'a pas les moyens de les remplir correctement. Et donc, on choisit et donc on trie. Et parmi les choses qui passent du coup sous le boisseau, il y a ces réactions qui devraient pourtant être normales, logiques, et prévues par la loi d'ailleurs, hein, ces réactions de protection. Et donc, pour éviter d'avoir à les mettre en mouvement, on préfère ne pas ébruiter les affaires. C'est ce fameux « pas de vague ». On ne dit rien, on ne minimise rien. Quand des rapports sont faits, on les réécrit. Le nombre d'enseignants qui expliquent, qui le disent, hein, que des rapports disciplinaires qu'ils font soit ne remontent pas sur la chaîne hiérarchique, soit sont réécrits contre leur avis, sans même qu'ils soient sollicités, avant de monter un peu plus haut, ça c'est effectivement un vrai problème. Est-ce que c'est... Moi je crois que pour ça, d'ailleurs, si on veut en chercher les causes, il y a une double raison. Cette double raison, elle est, des deux cas, elle est dramatique. D'abord, ce manque de moyens, hein, que j'évoquais, mais c'est aussi ce fait qu'il ne faut surtout pas se faire remarquer, il ne faut surtout pas que l'établissement scolaire dans lequel on est soit encore plus mal vu que les établissements scolaires d'à côté. Et donc, on ne dit pas ce qui se passe. Et dans les deux cas, ce mouvement, créé, incité, encouragé, en tout cas jamais freiné, fait que c'est devenu, dans certains établissements, et pour y compris certains chefs d'établissement, une culture et une manière de fonctionner, un mode de fonctionnement. On ne dit rien, on n'ébruite rien, on ne cherche même pas à régler le problème en interne, hein. On étouffe tant qu'on peut, et le problème, c'est qu'à un moment donné, à force de tout étouffer, ça explose.
Oui, alors, ce sont surtout des revendications et des menaces venant d'élèves et de parents de confession musulmane qui sont souvent pointés du doigt. Est-ce qu'elles sont aussi nombreuses qu'on l'entend? Est-ce que vous avez souvent des signalements?
Alors, est-ce qu'elles sont nombreuses? En tout cas, elles sont pas très nombreuses. Faut être honnête, faut être objectif là-dessus. Par contre, chaque fois qu'elles ont lieu, elles sont extrêmement violentes dans leur forme, dans la manière dont elles se mettent en mouvement. Une chose que l'on a constatée, surtout très récemment, c'est que lorsqu'il y a un événement de cette nature-là, et quand c'est lié à ces questions de religion, que ces questions de religion, et notamment de religion musulmane, sont mises en avant, quand c'est la religion musulmane, c'est jamais un seul parent d'élève. Il y a toujours derrière, je ne vais pas utiliser le terme de meute parce que je l'aime pas, parce qu'il n'est pas toujours adapté, il l'est particulièrement pour le cas de Samuel Paty, mais c'est pas toujours le cas, faut surtout pas faire de généralisation. En tout cas, c'est jamais des questionnements singuliers. C'est jamais un seul parent d'élève. C'est toujours un parent d'élève qui vient et qui est toujours accompagné par d'autres parents d'élèves ou par des personnes qui sont complètement extérieures au collège ou au lycée concerné et qui viennent en rajouter et qui viennent faire un petit peu tout de suite caisse de résonance. Ça, c'est cette particularité. Donc, pas forcément beaucoup d'événements, mais par contre, à chaque fois, une résonance absolument délirante, même on peut le dire, on a eu des cas encore hier dans l'actualité, c'est dans la Drôme, hein, à Valence, où un parent d'élève menace des professeurs parce que son fils, lors de la minute de silence, lors de l'hommage à Samuel Paty, a crié une formule rituelle
à la Ouagbar, oui.
Et il crie à la Ouagbar, il est donc sanctionné, le père intervient tout de suite, il n'est pas tout seul. Et quand il intervient, à ce moment-là, il les menace de faire sauter l'établissement, il les menace de leur faire revivre Samuel Paty, etc. Donc oui. On est vraiment là sur une situation où, d'un seul coup, tout explose, et surtout parce que, c'est encore une fois, hein, ces coups de pression qui sont mis, et ces menaces ne sont jamais le fait d'une seule personne, mais quand on a un cas à la base, en fait, on a un petit groupe instantanément qui intervient. Donc ça veut dire, on va se le dire très tranquillement, hein, qu'il y a quand même aussi une forme d'organisation sur ces pressions qui sont mises en avant sur l'éducation nationale.
Oui, puis quelques jours avant l'affaire de Valence, à Marseille, deux professeurs ont reçu une photo de Samuel Paty et des menaces de mort. Alors évidemment, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si toutes les leçons ont été tirées un an après l'assassinat de Samuel Paty. Si tout est fait au sein de l'éducation nationale pour qu'un tel drame ne puisse plus avoir lieu. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui de nombreux professeurs qui font leur métier, excusez-moi du terme, la trouille au ventre, qui s'interdisent d'aborder certains sujets en classe par peur de représailles d'élèves ou de parents d'élèves parce qu'ils ne se sentent pas soutenus, protégés par leur hiérarchie?
Oui, bien sûr. Oui. Et c'est un nombre qui est en augmentation, et on ne va pas se le cacher, qui va continuer à aller en augmentation. Pour répondre à la première question, est-ce que tout a été fait? Non. Loin s'en faut. Est-ce que tout a été dit? Est-ce que tout a été mis en place? Non plus. Par contre, des choses ont été faites en un an, et ça c'est assez remarquable. Il y a, quand on connaît la mécanique de mouvement de l'éducation nationale, ce qui s'est fait en un an est quand même assez important. Et, par exemple, le point le plus important, c'est l'article 10 de la loi confortant le respect des principes républicains, qui a été appelé amendement Samuel Paty, et qui qualifie de délit le simple fait de contester l'enseignement délivré par un parent d'élève ou par un tiers, le simple fait de contester l'enseignement délivré par un professeur. Donc ça, c'est déjà aussi quand même une véritable avancée qu'il ne faut pas négliger. Est-ce que tout a été fait? Non. Ben, j'en veux juste pour preuve le titre du rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale sur ce qui s'est passé dans ce collège de Conflans-Sainte-Honorine et qui s'appelle « Les événements survenus au collège du Bois d'Aulne ». Les événements, bon, ça nous fait écho, hein. On sait très bien que pendant des décennies,
la guerre d'Algérie.
Pour la guerre d'Algérie. Voilà, des événements. Voilà, il s'est passé des événements. Non. Un enseignant a été décapité par un terroriste islamiste au motif qu'il aurait, même pas vrai, au motif qu'il aurait profané l'image de tel ou tel, et particulièrement d'un prophète. Ouais. Voilà ce qui s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine. C'est pas des événements.
Ouais, alors parmi donc les... allez-y, terminez, excusez-moi.
Oui. Oui, effectivement. Donc la formule est au moins malheureuse. Au moins malheureuse. Je crois surtout qu'elle témoigne d'un état d'esprit. Ouais, des choses changent. L'état d'esprit lui-même de l'éducation nationale va avoir du mal à changer. Et donc des professeurs, oui, de plus en plus, arrivent au boulot, la trouille au ventre. D'abord parce qu'ils n'auraient jamais imaginé être une profession menacée, risquer leur vie parce qu'on va enseigner à des élèves. Mais qui, dans ce pays, aurait pu imaginer ça un jour? Enfin, là, il faut qu'on prenne collectivement la mesure de ce qui est en train de se passer dans ce pays. Et puis, il y a autre chose qui est beaucoup plus insidieux, c'est-à-dire, on va le dire là aussi très tranquillement, des syndicats d'enseignants, qui sont à minima dans le relativisme, en expliquant que le fameux 8 mai, il faut pas tout dire, qu'il faut pas tout montrer, etc. Et que ces syndicats qui sont pas forcément les plus majoritaires, les plus importants, mais qui sont pas ultra minoritaires, qui représentent quand même une frange conséquente, considèrent, eux, que leur devoir d'enseignant passe peut-être après leur volonté de faire passer des messages, y compris de nature politique. Et cette pression-là, qui existe aujourd'hui au vu et au su de l'administration de l'éducation nationale, dans les salles de professeurs, est aujourd'hui quelque chose d'absolument inacceptable. Elle a fait, c'est pas forcément la seule raison, mais ça a joué considérablement, elle a fait aussi une victime collatérale, si j'ose dire, même si elle n'a pas encore, et j'espère, elle n'a pas connu le sort de Samuel Paty. C'est une enseignante toulousaine qui commence à être aujourd'hui bien connue, c'est Fatia Boudjala, Fatia Agag Boudjala, qui a été, comme par hasard, à qui on a accordé un congé de formation, qu'elle n'a jamais demandé d'ailleurs, entre parenthèses, parce que, en fait, la pression qu'elle subissait au sein de sa salle de professeurs du collège Maurice Beckham de Toulouse, mise en place par des collègues à elle, faut le dire très clairement, a été telle que, malgré ce que le chef d'établissement a pu faire, le rectorat a préféré, là aussi, faire un pas de vague, et cette enseignante-là toulousaine, remarquablement apprécié par ses élèves et par les parents d'élèves, et bien aujourd'hui n'enseigne plus. Mais au moins, il y a moins de problèmes dans la salle des professeurs.
On déplace le problème, comme dans certaines autres institutions. On connaît ça. Merci beaucoup, Guillaume Agulot, pour vos éclaircissements et sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'institution scolaire, un an après l'assassinat de Samuel Paty. On ne peut plus tolérer que des professeurs soient menacés et agressés en classe ou en dehors des établissements. Espérons que les bonnes décisions seront prises rapidement et qu'il y aura des actions efficaces pour qu'on en finisse avec ces comportements.